Semaine Sainte 2022.
Semaine Sainte 2022 avec les frères et sœurs de la Fraternité Apostolique de Jérusalem. Office de la Passion.
Chers auditeurs, bonsoir. Et donc, effectivement, comme le disait à l'instant Nathalie, nous sommes en direct de la Collégiale d'Ibos. Alors, ce n'est pas Étienne Dallaire, c'est Thibaut de Tuiles. Et je suis accompagné de Laurent Véder. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, Thibaut.
Laurent, qui est un paroissien de Tarbes et qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent, de sacrifier votre Office de la Passion derrière les micros, de rester avec nous.
Avec plaisir.
Pour nous aider à faire vivre cet office aux auditeurs. Et voilà que je m'étouffe, pardon. Et donc nous ne sommes plus dans la cathédrale de Tarbes, nous sommes dans la collégiale d'Ibos, et à l'instant où nous parlons, la foule vient de se lever pour faire rentrer le prêtre et les autres ministres. Donc ce sont les frères de la communauté apostolique de Jérusalem qui vont rentrer en procession. On peut tout de suite dire que dans l'office de la Passion, les prêtres sont revêtus des vêtements d'un couleur rouge, puisque c'est cet office de la Passion, c'est l'office aussi où on va vivre les moments de la mort du Christ, et cette couleur rouge évidemment est très importante et elle est marquante quand on a sous les yeux ces magnifiques habits liturgiques rouges. Voilà, cette rentrée se fait dans le silence. Il n'y a pas de musique. Pendant cet office, il n'y a pas d'orgue. Il y aura quelques chants, pas plus qu'il n'en faut. Nous sommes dans le dénuement.
Voilà, donc nous attendons l'arrivée des prêtres. Dans le silence, effectivement, le recueillement. Et on les voit qui s'avancent et qui s'approchent de l'autel.
Les prêtres vont saluer l'autel. Et ils vont se prosterner devant l'autel. Se prosterner littéralement, c'est-à-dire qu'ils s'allongent devant l'autel. Les cinq prêtres, revêtus de leurs ornements rouges, sont entièrement allongés sur la pierre nue devant l'autel. C'est un signe très très fort.
Ils prient en silence. Relève et le prêtre gagne le siège ou tourné vers le peuple et les mains jointes, il dira
cette prière.
Par la passion du Christ en Christ, notre Seigneur qui a détruit la mort, hérité du premier péché. Elle qui tenait l'humanité sous ta gloire, accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. Pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Après cette simple introduction, que vous n'avez peut-être pas très bien entendu parce qu'on a des petits problèmes de micro qu'on va vite résoudre, un des paroissiens s'avance pour entamer cette liturgie de la parole. Alors, comme vous l'avez compris, nous avons un problème de micro. Donc, nous allons prendre le rôle du lecteur qui est devant l'assemblée et lire nous-mêmes. Si vous voulez bien, Laurent, lire la première lecture.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait
plus une terre aride.
Il n'avait plus l'apparence.
Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'a pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Désolé, chers auditeurs, pour ce petit incident technique qui a marqué le début de la célébration. Donc, c'était Monsieur Vabre, de la paroisse de la cathédrale, qui a lu la première lecture.
Entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, je remets mon esprit. D'être humilié pour toujours. Oh. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins.
Je fais peur à mes amis.
S'ils se voient dans la rue, ils m'enfuient.
Entre tes mains, Seigneur, entre, je me mets
en esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette.
J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour monter la nuit. Entre tes mains, Seigneur, entre, je Je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont en ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. Entre tes mains,
serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour.
Sois fort, prenez courage.
Vous tous qui espérez le Seigneur, entre tes mains,
merci, merci sœur Rita d'avoir lancé ce psaume 30 sans accompagnement musical. Et pour la lecture de la lettre aux Hébreux, c'est madame Coutan qui prend la suite.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Il va maintenant y avoir la lecture de la Passion. faut savoir que cette lecture se fait sans luminaire, il n'y a pas de cierge autour de l'évangile, sans encens, sans salutation, sans signation du livre.
Le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom.
Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint, immortel, en pitié.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit :
Qui cherchez-vous ?
Ils lui répondirent :
Jésus, le Nazaréen.
Il leur dit :
C'est moi, je le suis.
Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau
« Qui cherchez-vous ? »
Ils dirent
« Jésus, le Nazaréen. »
Jésus répondit
« Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. »
Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre :
Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre :
« N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?»
Il répondit :
Non, je ne le suis pas.
Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit :
Moi, j'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. »
À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant,
« C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?»
Jésus lui répliqua,
« Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?»
Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit,
« N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?»
Pierre le nia et dit,
« Non, je ne le suis pas. »
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista,
« Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?»
Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda
« Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?»
Ils lui répondirent
« S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. »
Pilate leur dit
« Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. »
Les Juifs lui dirent
« Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. »
Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus lui demanda
« Dis-tu cela de toi-même ?» Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet. »
Pilate répondit,
« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?»
Jésus déclara,
« Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. »
Pilate lui dit,
« Alors, tu es roi ?»
Jésus répondit,
« C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. »
Pilate lui dit,
« Qu'est-ce que la vérité ?»
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara
« Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?»
Alors ils répliquèrent en criant
« Pas lui, mais Barabbas !»
Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient
« Salut à toi, roi des Juifs !»
Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit
« Voyez !» Je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara
« Voici l'homme !»
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier
« Crucifie-le ! Crucifie-le ! »
Pilate leur dit
« Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Ils lui répondirent,
« Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. »
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire, et dit à Jésus :
D'où es-tu ?
Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors :
Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?
Jésus répondit :
Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand.
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier :
Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur.
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs :
Voici votre roi.
Alors ils crièrent :
À mort, à mort, crucifie-le.
Pilate leur dit :
Vais-je crucifier votre roi ?
Les grands prêtres répondirent :
Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur.
Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate :
N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.
Pilate répondit :
Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Il prit aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux :
Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura.
Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère :
Femme, voici ton fils.
Puis il dit aux disciples :
Voici ta mère.
Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit :
J'ai soif.
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :
Tout est accompli.
Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Chacun chez vous, là où vous êtes, vous pouvez à ce moment-là vous aussi vous incliner, vous mettre à genoux. Ou si vous ne pouvez pas vous incliner, en même temps que tous ici nous le faisons, que l'Assemblée le fait. Voilà, le prêtre se relève et la lecture va reprendre.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus, pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Au pied de la croix, il y avait la Vierge Marie. Ils étaient tous partis, mais Marie était là, accompagnée par sa sœur et par Jean, le disciple bien-aimé. Et Jésus était suspendu à la croix et il n'avait plus de force. Avec les dernières forces qui lui restaient, il a dit encore une parole. Il n'avait plus de souffle, mais il a encore dit une parole. Et donc, c'est qu'elle est très importante. C'est un peu le testament. Il y avait au pied de la croix la Vierge Marie. Il y avait Jean, le disciple qu'il aimait. Et Jésus se tourne vers sa maman, en lui disant « Femme, voici ton fils. » C'est très étonnant. On n'appelle jamais sa maman en disant « Femme ». Pourquoi Jésus l'appelle-t-il « Femme » ? Cela nous renvoie à Ève, la première femme de toute l'humanité. C'est Adam, le premier homme qui lui a donné son nom. On l'appellera femme. Et quand Jésus sur la croix l'appelle femme, voici ton fils, c'est qu'il y a un lien avec Ève, la première femme de toute l'humanité. Alors quel est ce lien ? Dieu a créé l'homme et la femme, nous tous, toute l'humanité, en vue de l'Église. Voilà le projet de Dieu. Le projet de Dieu qui est présent dès le premier instant de la création. Nous voyons une sorte de crescendo dans la création. Au sommet, il y a l'homme et la femme. Et l'homme et la femme ont été créés en vue de l'Église. Le projet de Dieu, c'est l'Église. Vous voyez, c'est pas une fabrication humaine. C'est pas un projet des apôtres qui se sont dit « Maintenant Jésus est mort, il faut qu'on s'organise. » Pas du tout. Ce projet est dans le cœur de Dieu avant même qu'il ait commencé la création. Le projet de Dieu, son désir le plus profond, c'est l'Église. Et voyez-vous, au ciel, il n'y aura plus de sacrement, mais il y aura l'Église. Donc le projet de Dieu, c'est que l'humanité tout entière puisse être l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, le corps de son Fils et l'épouse du Christ. Voilà le projet de Dieu. Seulement, nos premiers parents, Adam et Ève, ont succombé au tentateur, voyez, au père du mensonge. Il leur disait, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir, vous serez comme Dieu. Un peu comme si on avait un avantage, voyez, à être Dieu en dehors de cette relation d'amour. C'était complètement tordu comme idée. Ne jetons pas la pierre à nos premiers parents parce que nous, finalement, nous pouvons être un peu comme eux. Vous serez comme Dieu. Et c'est là que le projet de Dieu a été blessé. Il n'a pas été anéanti, loin de là. Mais le projet de Dieu a été blessé. Au lieu que ce projet de Dieu puisse se réaliser, vous voyez, parce qu'il y avait vraiment un cheminement depuis la création d'Adam et Ève et jusque dans le projet de l'Église, donc les noces éternelles au ciel, il y avait un cheminement qui était prévu par Dieu. Mais au lieu que ce cheminement se fasse dans la douceur, dans la bonté, dans l'amour, voilà qu'il se fait maintenant à travers la passion, la croix de Jésus. Ça, ce n'était pas prévu par Dieu. Mais, donc le projet de Dieu a été blessé, la souffrance n'était pas prévue, mais Jésus nous rejoint dans notre souffrance, il nous rejoint dans notre misère pour accomplir malgré tout, envers et contre tout, le beau projet de Dieu. Alors ce projet de Dieu, voyez-vous, mystérieusement, a été annoncé par Caïphe le grand prêtre. Il ne le savait pas. En fait, il voulait tuer Jésus. Après la résurrection de Lazare, au chapitre 11 dans l'Évangile selon saint Jean, il dit à ses collègues, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Et saint Jean, qui a écrit donc le quatrième Évangile, médite en disant, ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Voilà. Voilà que le projet de Dieu s'accomplit dans la mort de Jésus. Dans l'offrande de Jésus, les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire nous tous, sont rassemblés en un seul corps. Jésus, en mourant sur la croix, guérit l'humanité de sa blessure originelle. Et Marie, la nouvelle Ève, participe avec Jésus à l'enfantement de l'Église. Alors nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Devenir enfants de Dieu. Ne pas mettre de résistance à la grâce de Dieu, devenir enfant de Marie pour qu'elle puisse nous enfanter à la vie nouvelle, à cette vie de l'Église. C'est tellement beau l'Église. Alors bien sûr, l'Église sur cette terre, elle reste blessée, tout comme le corps de Jésus a été blessé dans sa passion. Et cependant, nous portons en nous, en germe, déjà l'accomplissement de ce projet de Dieu. Devant tant d'amour, frères et sœurs, laissons-nous conduire sur un chemin d'amour. Voyez-vous ce lien d'amour entre Dieu et l'humanité tout entière, c'est-à-dire entre Dieu et l'Église, voilà le projet de Dieu, un lien d'amour éternel. La dernière parole de Jésus sur la croix, c'est « Tout est accompli ». Ça y est, le projet blessé de Dieu maintenant est accompli en Jésus, en Marie. Et le disciple bien-aimé au pied de la croix, c'est le premier qui profite de cette grâce immense qui nous est offerte. Alors avec Jean, nous aussi, laissons-nous enfanter à cette vie nouvelle. Devenons ensemble le corps du Christ. Devenons ce symbole, plus que cela, ce sacrement du corps du Christ au milieu de ce monde, pour dire au monde tout entier, à l'humanité tout entière, que nous sommes faits pour Dieu. Amen.
Merci, merci au Père David-Marie qui nous a fait l'offrande, j'ai envie de dire, de cette homélie qui nous invite à ce lien d'amour pour qu'il conduise nos vies sur cette terre dans l'espérance et dans la préparation de notre vie spirituelle au-delà de notre vie sur terre. La liturgie de la parole se termine donc par la prière universelle qui, en ce jour, est dite de la manière suivante, le diacre.
Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant.
Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde afin que ton Fils ait répandu par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Prions pour notre évêque nommé Jean-Marc, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles.
À l'invitation du prêtre tout à l'heure, nous nous mettons tous à genoux entre chacun des deux éléments de ces 10 prières universelles. Et puis nous nous relevons.
Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église,
exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur.
Amen. Amen.
Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur.
Tout le monde s'accroupit, se met à genoux. Avant la prochaine intention qui sera suivie de l'horizon, et tout le monde se relève.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême, et prenne place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur.
Amen. Amen.
Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous.
Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix et la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut.
Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Voilà la grande prière universelle du Vendredi Saint est maintenant finie. Et c'est le temps qui va s'ouvrir de la vénération de la croix. Mais pour la vénérer, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit devant nous. Or, les croix ont été masquées depuis hier soir. Et donc là, le prêtre, accompagné de deux enfants de chœur qui portent des cierges, va jusqu'au fond de l'église, où il va chercher cette croix. Il va la porter, il va remonter la nef, et il va chanter par trois fois cette phrase pleine de sens. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et nous répéterons, et vous répéterez chez vous, venez, adorons. Voilà, le prêtre est arrivé au fond de la nef. Et le voilà qui s'avance.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Ce bois, c'est le Christ qui est venu pour tous les péchés du monde. Nous verrons tout à l'heure au moment de la procession ce que cela représente pour chacun d'entre nous.
Qu'à chaque fois, le prêtre entonne un petit peu plus haut pour montrer aussi ce chemin, pour montrer ce chemin qui monte vers le Golgotha, vers l'adoration. Donc là, au moment où il a dressé cette croix, après cette phrase, tout le monde s'est agenouillé. Et maintenant, tout le monde se relève. Et le prêtre avance encore un petit peu plus dans la nef. On distingue de mieux en mieux cette croix devant laquelle tout à l'heure nous allons nous agenouiller. Il s'arrête une troisième fois, juste devant les marches de l'autel, et il chante à nouveau. S'incline à nouveau devant la croix dressée, la croix portée à bout de bras par le prêtre. C'est maintenant que va débuter cette longue procession de la vénération de la croix, puisque chacun des membres de cette assemblée va venir s'incliner et embrasser cette unique croix. Chez vous, vous pouvez aussi prendre une croix, prendre un crucifix, et le mettre devant vous. Si vous pouvez vous déplacer, mettez-le à quelques distances. Posez-le sur une commode, posez-le sur une table, posez-le sur une chaise. Une croix, un crucifix. Et en priant avec les chants, avancez-vous, vous aussi, vers cette petite croix qui est chez vous. Et inclinez-vous devant elle et embrassez-la aussi. Voilà, nous pouvons chanter aussi.
Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. t'ai je fait sortir du pays d'Égypte, t'ai je fait entrer en terre promise, pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. T'ai-je guidé 40 ans dans le désert et nourri de la manne pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. Je t'ai planté ma plus belle vigne, et tu n'as pas eu pour moi que ton amertume et du vinaigre pour ma soif. J'ai pour toi frappé l'Égypte, j'ai englouti dans la mer Pharaon et son armée. Toi, tu m'as livré au grand prêtre, et les soldats m'ont flagellé.
Ce que nous sommes en train d'entendre, ça s'appelle les impropères. Impropères, c'est un mot qui vient directement du latin, qui signifie reproche. Les impropères, ce sont donc les reproches attristés du Christ au peuple qui l'a rejeté. Et on les chante une fois par an, pendant le Vendredi Saint, pendant l'adoration de la croix. À chaque fois, c'est un bienfait de Dieu dans l'Exode qui est mis en contraste avec un épisode de la Passion. Et en réparation, l'Assemblée, le peuple, nous chantons « Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. »
Et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort. J'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi, de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux, et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort. Du rocher, je t'ai fait boire le salut. Toi, tu me fis boire le fiel et tu m'abreuvas de vinaigre. Devant toi, j'ai fait resplendir ma gloire. Dans le buisson ardent et la colonne de nuée, et tu m'as tourné en dérision, et vêtu d'un manteau de pourpre. Toi, j'ai frappé l'Égypte et sa puissance. J'ai fait de toi mon peuple, un peuple de rois. Et tu m'as couronné la tête d'une couronne d'épines. Je t'ai exalté par ma toute puissance. Toi, tu m'as pendu au gibet de la croix. Je t'ai choisi parmi toutes les nations. Toi, tu m'as rejeté hors des murs de Jérusalem.
S'avance tour à tour vers le bois de la croix. Ce bois de la croix, c'est le Christ qui a porté le salut du monde, tous les péchés, tous les malheurs, toutes les souffrances, toutes les misères. Et le geste symbolique de cette procession, c'est que les fidèles viennent, s'arrêtent devant le Christ, embrassent ses plaies et déposent leurs plaies à eux. C'est l'Esprit Saint qui anime cette relation d'amour entre les fidèles, le Christ, qui joue son rôle d'intercession auprès du Père. Les fidèles s'avancent vers le bois de la croix, vers le Christ, comme des greffons pour déposer leur chemin de vie, leur souffrance, et invoque donc l'Esprit Saint pour que le greffon prenne au bord de la croix. Et par la sève que produira cet échange entre les greffons et le bois de la croix, l'arbre portera du fruit. Par l'action de l'Esprit Saint.
Voici l'arbre de la croix, planté au milieu du paradis. Le Fils de l'homme est venu réconcilier les hommes avec le Père. Le Fils d'Adam a fait surabonder la grâce du pardon pour les péchés.
cette procession en embrassant les plaies du Christ, en me greffant à Jésus. Je deviens un être nouveau par cette transfusion d'amour. Mes plaies sont nettoyées et deviennent des plaies qui laissent passer la lumière de l'amour, ce lien d'amour auquel nous appelait tout à l'heure le Père David Marie dans son homélie.
Yes.
La longue procession de la vénération de la croix est maintenant finie. Le prêtre a posé la croix devant l'autel face au peuple pour que nous puissions tous continuer à la voir jusqu'à la fin de cet office. Et c'est le moment où le mouvement de communion va être préparé. Je dis mouvement parce que vous savez qu'il n'y a pas de consécration le vendredi saint. Et donc, un prêtre va prendre le Saint-Sacrement à la sacristie. Sacristie où nous sommes, d'ailleurs. Et le prêtre passe à côté de nous.
En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le frère François-Xavier.
Ce temps de silence, parce que, comme vous l'avez compris, le studio est installé dans la sacristie. Le prêtre est venu chercher le Saint-Sacrement au milieu de nous. C'est un petit peu intimidant. Voilà, il retourne sur l'autel. Ils sont en train de préparer le mouvement de communion, de répartir les hosties dans les ciboires. Et le reste de la messe va pouvoir continuer.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À vous qui êtes chez vous et qui, comme souvent, ne pouvez pas communier parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons prier avec Saint Padre Pio. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous.
Sur ses traces, c'est par tes offrances, c'est
sauver. Lui qui n'a pas commis de faute et ne s'est trouvé en sa bouche aucun mal. N'entendit pas l'insulte, maltraité ne fit pas de menace, s'en remettant à celui qui juge avec justice. Nous vivions pour la justice, par ses souffrances nous sommes guéris. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.
Jésus le Christ, lumière.
Achevé. Dans quelques instants, la plupart des radios qui sont avec nous et qui nous écoutent.
Quelques rappels.
Ah, un petit rappel.
Demain soir, la vigile pascale.
Les annonces.
À 21h30 à la cathédrale. Je vous rappelle aussi que des prêtres seront disponibles pour les confessions demain après-midi à la cathédrale à partir de 15h30. À la sortie de l'église en ce jour. Bien sûr que nous pensons à la guerre en Ukraine et à toutes les victimes. Et en ce jour particulier du Vendredi Saint, nous sommes invités aussi à penser tout spécialement aux chrétiens de Terre Sainte. Des paniers à la sortie vous seront proposés pour une offrande pour les chrétiens en Terre Sainte qui, eux aussi, ont du mal à vivre, à survivre dans les conditions difficiles. Merci de votre générosité, de votre offrande.
Voilà donc... Les personnes qui nous écoutent par Radio Ecclesia, par Radio Léa Pourdi, par Radio Fidélité, nous avons la tristesse de vous dire que cette retransmission va s'arrêter quelques secondes avant la bénédiction finale que je vais vous lire. Que ta bénédiction, nous t'en prions Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.
Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.
Seigneur, éveille.
Ce chant que nous entendons, c'est le chant de la mise au tombeau. Et nous assistons, nous, pendant ce temps, au rite de l'ensevelissement. C'est-à-dire que deux sœurs incarnent Marie-Madeleine et Marie, deux frères incarnent Nicodème et Joseph, et sur ce champ, ils accomplissent une série de gestes pendant que les lumières baissent au fur et à mesure dans la collégiale. Le crucifix, par exemple, est déposé sur l'autel. Les sœurs entourent la croix d'un linceul. De l'encens est posé dans des coupes autour du crucifix. Un frère va déposer un cierge allumé tout à l'heure. Et autour de cette scène, les frères et les sœurs sont à genoux, les uns après les autres, et prient pendant que nous chantons. Voilà, c'est sur ce rite de l'ensevelissement que nous nous quittons ce soir. Nous pouvons nous retrouver demain, si vous le souhaitez, à 8h pour l'Office des Ténèbres et bien sûr à 21h30 pour la Vigile Pascale dans la cathédrale de Tarbes. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés ce soir aux commentaires. Merci à Gilles et Joseph de Radio Présence Lourdes qui ont assuré la réalisation. Et bonne soirée.
Merci Thibault. Tu m'as remercié en début de la célébration d'avoir sacrifié. Et c'était pas du tout un sacrifice, c'était une belle expérience de pouvoir le vivre donc différemment et en essayant de le faire vivre comme, par la radio à tous nos auditeurs. Je salue. Merci.